Salut à toutes et à tous, au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons Leicester Suite Larry 3, Winds of Thunder, League Bowling, Frogger, Outrunners et la démo Amiga Enigma du groupe suédois Phenomena. Bienvenue sur Rétrovision. C'est toujours un plaisir de se donner rendez-vous avec un nouvel épisode de Rétrovision, l'émission qui nous donne envie d'aller faire les brocantes le dimanche après-midi à la recherche de nos souvenirs d'enfance. Et puisque l'on parle de souvenirs, voici justement un point and click super sympa et bourré d'humour que pas mal de gens avaient à l'époque. Il s'agit de Leicester Suite Larry 3 sur PC, sorti en 1989. Nous revoici dans la peau du dragueur le plus opportuniste de l'histoire du jeu vidéo, Larry Laffer, qui commence bien mal cette aventure puisque tout se retourne contre lui, aussi bien sur le plan professionnel, chez Indigène et compagnie, que sentimentalement, puisque sa chère épouse Kalalo, de l'épisode précédent, demande le divorce pour refaire sa vie avec une autochtone de l'île de None Tonight, ou pas ce soir pour la version française, évidemment c'est un jeu de mots. À vous de motiver Larry et de le reconduire vers la bonne direction, celle du plaisir charnel, pour y rencontrer l'élu de son cœur, la passionnante Patty. L'aventure se déroule sur deux étapes. La première est la plus importante, où vous contrôlez Larry. Et la deuxième, vers la fin de l'aventure, où Patty entre en scène à la recherche de son coup de foudre. D'ailleurs, son parcours est basé sur un long striptease plutôt inattendu. Le système de jeu a par contre mal vieilli. Il consiste à taper des mots au clavier en prenant soin de faire attention à l'orthographe et surtout aux accents pour ce qui est de la version française. Graphiquement, on retrouve les couleurs guimauve de la série de Leicester Suite Larry et la bande son, composée par Mike Dana, nous accompagne agréablement à travers ce paysage paradisiaque. Ce troisième épisode est définitivement l'un des meilleurs de la série, par ses situations cocasses et son humour débridé. C'est aussi l'un des seuls point and click qui nous faisait passer un questionnaire à choix multiples pour prouver notre majorité et ainsi profiter du jeu dans toute sa splendeur sans la moindre censure. Winds of Thunder, aussi connu sous le nom de Lord of Thunder, est un shooter horizontal édité par Raid en 1993. Il est la suite directe de Gate of Thunder, mais leur univers n'a absolument rien à voir. Ici, on nous propose une ambiance typée Chevalier du Zodiac, étendue sur 7 stages, avec chacun leur lot de boss en milieu et fin de niveau. Winds of Thunder vous propose de contrôler Duran, un descendant du puissant chevalier Drac, et votre difficile mission est d'arrêter l'invasion des 6 généraux qui se sont emparés des continents de la planète Mistral. Ces derniers n'ont qu'une idée en tête, ressusciter leur vilain chef Déoric en détruisant la magie scellée par Drac. L'une des originalités de ce shoot'em up est qu'il est possible de choisir le stage par lequel vous désirez commencer. Avec un peu de pratique, on arrive vite à distinguer leur degré de difficulté. S'en suivra la sélection de l'armure, associée à un élément, avec chacune leur particularité et leur angle de tir. Et une petite visite au magasin, histoire de négocier le parcours le plus sécuritairement possible. La maniabilité du guerrier est excellente. Aucun ralentissement à signaler, le support CD-ROM est bien exploité, que ce soit niveau graphisme, avec des décors somptueux et vraiment très variés. La qualité sonore est divinement rythmée par des musiques rock, avec son lot de guitares électriques saturées. Wing of Thunder bénéficie d'une jouabilité assez simple et classique avec un bouton tir et un autre pour les bombes, les bonus d'armement et de vie et les cristaux pour encaisser de l'argent. Il fut aussi adapté sur Mega CD avec une réalisation bien inférieure par rapport à la console de NEC et sur la Wii Virtual Console en 2008. Voici une cartouche qui faisait rêver à l'époque puisqu'elle faisait partie des premières sorties sur la Rolls des consoles de salon, la Neo Geo. C'était en 1990 et la Neo Geo nous en mettait déjà plein la vue, même avec un concept relativement simple. League Bowling est, comme son nom l'indique, une simulation de quilles, ultra colorée, dynamique, avec une bonne touche d'humour et un gameplay ultra facile. A défaut de changer de chaussures, il est possible de choisir le nombre de joueurs, jusqu'à 4, le type de partie, la couleur et le poids de la boule, allant de 5 à 15 kg, autant dire que c'est précis. Comme je vous le disais, la prise en main est instantanée, avec une barre horizontale pour définir la trajectoire, une autre pour la force du lancer, et l'option de déplacer le personnage de gauche à droite. Histoire d'apporter un peu de variété, trois modes vous sont proposés, à savoir Regulation, Flash et Strike 90. mais tous auront pour objectif de faire le maximum d'abats, des strikes, ou de réserves, aussi appelées spares, dans le pire des cas. Malgré une maniabilité réduite au minimum, un seul bouton d'action, League Bowling est quand même plus prenant lors des parties contre plusieurs joueurs. Surtout que des animations comiques viennent régulièrement ponctuer chaque lancer, qu'il soit bon ou mauvais. Frogger fait incontestablement partie des grands classiques du jeu vidéo, d'une popularité tellement énorme qu'on le retrouve encore même de nos jours, dans des versions améliorées sur toutes machines confondues. Mais revenons à Frogger, l'original sur arcade, édité par Konami en 1981. Vous devez diriger des petites grenouilles à rejoindre leur maison, qui se trouve tout en haut de l'écran. Mais le chemin relève du parcours du combattant, puisqu'il faut traverser une route en pleine heure de pointe, puis une rivière agitée sur laquelle flottent des tortues et des rondins de bois à contre-courant. Le but étant, cela va de soi, de ne pas se faire écraser ni manger ou de tomber dans l'eau, tout en respectant une limite de temps indiquée par le minuteur symbolisé par une barre. Ce hit fut adapté sur un nombre incalculable de plateformes et nous avons choisi de vous montrer la conversion plus qu'honorable sur ColecoVision. La maniabilité est presque aussi bonne que sur arcade, si ce n'est une palette de couleurs moins étoffée et des sprites beaucoup plus grossiers que son homologue. On m'a souvent demandé quels étaient les titres des musiques de transition entre chaque jeu dans la quatrième saison. Il s'agit bien sûr de Technotronic avec Take It Slow et Rockin' Over the Beat, un hommage à l'émission Gros Plan sur la Souris que certains d'entre vous auront reconnu. Autre virgule sonore un peu moins connue, puisqu'il s'agit d'un remix dance de Ryan Paris avec le morceau Dolce Vita. Voici sans doute la rubrique la plus nostalgique de l'émission, en tout cas pour celles et ceux qui ont connu cette époque du début des années 80, les LCD de notre enfance. Avec pour commencer Galaxy 2, aussi connu sous le nom d'Astro War en 1981. Le but est de tirer sur les ennemis qui foncent vers le bas tout en zigzagant, d'anéantir les vaisseaux mères et de récupérer votre module en évitant qu'il s'écrase. L'écran dispose d'une matrice VFD en couleur et d'un seul canal sonore. Popeye est un Game & Watch ultra simpliste, puisque vous devez aider le marin à attraper les objets que lui lance Olive, sa bien-aimée, de manière plutôt maladroite. Attention aussi à Brutus qui fera son apparition sur l'un des deux côtés de l'écran pour faire chavirer notre marin de son embarcation. Allez, encore un petit Game & Watch bien connu, on se fait plaisir, Turtle Bridge, où vous dirigez un petit bonhomme ayant pour mission de traverser une rivière pour aller donner des marchandises à son collègue situé évidemment de l'autre côté. Il faudra sautiller d'une tortue à l'autre en prenant soin que celle-ci ne plonge pas sous l'eau pour avaler des poissons. Sinon, c'est la noyade assurée. Nouvelle sélection Flipper avec trois tables pleines de nostalgie. Et pour débuter, regardons ensemble ce GoldenEye de Sega sorti en 1996. Le thème est tiré de la licence du dernier film de James Bond sorti à l'époque, GoldenEye, où l'on voyait Pierce Brosnan interpréter le célèbre agent 007. Le principal objectif est de charger le satellite rotatif via une rampe afin d'avoir une multiball ou d'autres options rapportant plus de points. Séquence émotion avec ce Astro Shooter qui était une réplique miniaturisée d'un vrai flipper analogique sorti en 1985. Certains d'entre vous ont peut-être eu la chance d'avoir ce jouet électronique dans leur chambre, à défaut d'avoir un vrai flipper de café, encombrant et nettement plus dispendieux, c'était tout de même mieux que rien. On pouvait retrouver toutes les sensations d'un vrai flip. The Lost World est encore une transposition cinématographique de l'œuvre de Steven Spielberg, Jurassic Park. Dans cette table bien achalandée, vous aurez à rejoindre San Diego après avoir complété 5 modes. Site B, Raptor 2 Ball, Mobile Lap, Baby T-Rex et GPS. Le bouton Smart Missile sera là pour vous aider en cas de besoin. Et les nombreuses animations qui sont affichées sur l'écran DMD sont directement tirées de certaines séquences du film. Encore une borne merveilleuse éditée par Sega, il s'agit d'Outrunners, sorti en 1992 sur le système Multi 32, qui offre un mode 2 joueurs avec la gestion de 2 moniteurs. C'est aussi la suite du légendaire Outrun que l'on ne présente plus. Avant de vous lancer dans la course, vous aurez le choix parmi 8 bolides, avec chacun des propriétés différentes, tenue de route, vitesse, rapport et accélération. Outrunner reprend exactement le même principe que dans Outrun. La course se divise en plusieurs embranchements, vous donnant ainsi le choix de la route à prendre. Celles-ci sont d'ailleurs basées sur des paysages variés. On peut dire qu'en 1992, c'était les dernières apparitions des sprites zoomés, si chères aux productions Sega signées Yu Suzuki. Justement, parlons un peu des graphismes qui sont particulièrement réussis. Les paysages traversés sont magnifiques, ensoleillés et sentent bon la crème solaire. C'est le genre de route que l'on aimerait traverser pendant les vacances. Peu importe la voiture que vous avez sélectionnée, Outrunner dispose d'un style purement arcade niveau conduite. Ici, la vitesse décoiffe, les pistes sont larges et les virages se négocient sans trop de difficultés, sauf certains passages plus étroits qui demanderont l'usage des freins. Les musiques sont toujours aussi entraînantes puisque l'on retrouve les trois thèmes d'Outrun premier du nom, additionnés de 7 musiques totalement inédites. La borne dispose aussi d'un écran LCD qui affiche le titre de la musique en cours de diffusion. La série des Outrun possède un style très personnel. Ce ne sont pas des simulations de course hyper réalistes, mais plutôt une invitation au voyage, une conduite enivrante avec des musiques de toute beauté, dépaysement garanti. C'est déjà la fin de ce 4e épisode de la saison 4. En espérant que cela vous a inspiré pour vos futures parties de jeux vidéo, on se quitte avec une démo Amiga très populaire puisqu'il s'agit d'Enigma du groupe Andromeda. Alors on se dit à très bientôt sur Rétrovision.